Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du festival Étonnant Voyageur qui se déroule actuellement à Saint-Malo, avec une 30e édition toujours sous le signe de l'ouverture sur le monde, je reçois aujourd'hui l'une des invitées de la manifestation, auteur d'un livre porté par un souffle de liberté, qui est aussi une réflexion très pertinente sur la place de la femme dans l'espace public et dans la ville en particulier, un récit autobiographique, géographique et un essai artistique, politique, voire subversif, à l'image de son titre « Flâneuse », paru aux éditions Hoébec. Bonjour Lorraine Elkin.
Bonjour Catherine.
C'est vous la flâneuse, cette jeune femme née aux États-Unis, venue en France pour ses études et qui dans les rues parisiennes a découvert ce plaisir de la marche, de l'errance, de la balade, sans but précis, bref de la promenade. Est-ce qu'en effet c'est ici à Paris que vous êtes devenue une flâneuse ?
Oui, oui, je dirais. Ce n'est pas à Paris où j'ai appris à marcher dans la rue, ça c'était à New York où j'ai grandi un peu, où j'étais à l'université, mais c'était à Paris quand j'étais étudiant à l'université pendant mon troisième année à l'étranger, que oui, je me suis perdue dans les rues autour de l'école où j'étudiais à l'époque, dans la rue de Chevreuse, dans le 6e arrondissement. Donc toutes les petites rues qui étincellent autour du jardin de Luxembourg m'ont vraiment séduit, quoi. J'ai trouvé juste passionnant de me perdre dans les rues pendant des heures avec rien en particulier à faire. C'était juste pour le plaisir de regarder un peu la ville, les gens dans la ville et comment tout ça formait une unité autre que les autres villes que je connaissais à cette époque-là.
Et c'est sans doute une révélation aussi pour vous parce que vous venez d'un pays et d'une banlieue américaine où la voiture est reine et oui, on ne sait pas ce que c'est que marcher finalement.
Oui, c'est ça, tout à fait. On sait ce que c'est marcher, mais c'est quelque chose que l'on fait depuis la porte de la voiture jusqu'à la porte de là où on va. Donc c'est quelque chose de très pratique. Ce n'est pas une pratique en soi. C'est juste, une
utilité. C'est fonctionnel.
C'est fonctionnel, voilà. Et toutes les grandes villes aux États-Unis, pour la plupart, sont vraiment dominées par les voitures. Et donc, elles sont très grandes, dispersées sur une grande territoire. Et pour moi, ce n'est pas très intéressant comme formation d'une ville. C'est une chose qui fait que on peut devenir un peu atomisé dans notre propre bulle. On ne rencontre pas les gens qui ne nous ressemblent pas. On peut faire notre petite vie comme on veut et ça risque de devenir même une fantaisie de la ville, une exclusion d'autres vies que les nôtres.
Donc c'est ici en effet, Lorraine Elkin, à Paris, que vous devenez flâneuse. Et pour autant, ce mot n'est pas si souvent employé au féminin. Est-ce parce que cette liberté de flâner était essentiellement un droit octroyé aux hommes pendant longtemps, mmh, et que finalement, avec cette féminisation du nom, on découvre la révolution inhérente à l'acte, à savoir comment les femmes ont eu enfin accès à ce droit de pouvoir sortir seule de chez elles, dans la rue, en opposition à la maison, au foyer où elles étaient cantonnées. Donc flâneuse, déjà, c'est un terme quasi sociopolitique.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot avant, en tant que quelqu'un qui parle le français comme langue natale ?
Je pense que c'est un mot qu'on a intégré dans le vocabulaire quotidien, qui apparaît maintenant dans les dictionnaires, mais il me semble que c'est tout à fait récent.
Ouais, je pense aussi. Ouais, j'avais demandé à quelques Français et Françaises de ma connaissance quand j'étais en train de rédiger le livre. Et oui, j'ai reçu des replis un peu divers. Parfois, c'est pas vraiment bien vu être une flâneuse. C'est un peu, je sais pas, quelqu'un qui fait un peu trop de lèche-vitrine, qui s'intéresse un peu trop à acheter des choses, à acquérir des choses. Ou parfois, c'est quelque chose qui se dit comme entre nous, mais pas sur un plan plus formel. Et donc, ouais, au moment où je me suis mise à écrire le livre, quand j'ai cherché sur les Google Images, j'ai trouvé des photos de George Sand et peut-être quelques images de Paris, mais aussi des photos du mobilier de jardin. Donc, apparemment, une flâneuse, c'est une espèce de chaise longue, je ne savais pas avant.
Moi non plus, je l'ai découvert avec vous, en vous lisant. Donc flâneuse, effectivement, c'était pendant longtemps associé soit aux femmes qui sont dans la rue mais qui mendient, les prostituées, celles qui en effet perdent leur temps à faire du lèche-vitrine. Enfin, ce sont des connotations qui sont un peu négatives. Et vous, vous redonnez une connotation positive à ce terme flâneuse en disant les hommes ont le droit de flâner, nous aussi, nous avons le droit de flâner. Et ça correspond bien à un moment de la société où les femmes reprennent, prennent des pouvoirs.
Oui, c'est ça. Et ce n'est pas simplement ou uniquement des associations négatives avec ce terme de flâneuse. C'est, il s'agit d'une grande absence d'une histoire ou d'une idée de ce que ça pourrait bien être une flâneuse. C'est, je cite par exemple, il y a un essai du sociologue Janet Wolf qui s'appelle The Invisible Flâneuse, qui constate que la littérature de la modernité est essentiellement du point de vue masculin. Donc, on connaît à quoi ça ressemblait grâce à Baudelaire, à Benjamin, Maxime Ducamp, on a une idée des grands boulevards de Paris, d'une ville en transformation grâce à Oberon Haussmann. Mais on a très très peu d'exemples de ce que les femmes ont vécu à cette époque-là. Ce qu'on a, ce sont principalement les œuvres des écrivains, des lettres, des journaux, des peintres, comme par exemple de Mary Bashkirtseff, la jeune peintre russe que je cite dans le livre. Donc c'est les femmes de bonne famille qui ont pu atteindre un niveau de renom, on peut entendre leurs impressions de la ville, justement, en tant que flâneuse. Mais la femme ordinaire dans la rue, qui n'était pas peinte, qui n'était pas écrivain, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas flâneuse, que ça n'existait pas. Donc justement, je voulais revenir en arrière et essayer de construire un peu une littérature de modernité féminine. Et donc c'est à travers ces écrivains et ces artistes que j'ai pu le faire.
Et en effet, à travers vos propres découvertes de Paris, de Londres, de Tokyo, de Venise, vous rappelez, Lauren Elkin, en écho, les déambulations de celles qui vous ont précédées, qui ont ouvert la voie, même si cela s'est fait au début un peu par effraction, comme Georges Sand, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, écrivaine du 19e siècle, née Aurore Dupin, mais qui, lasse d'un mariage insatisfaisant et avide d'écriture, vient à Paris, rejoindre son amant d'ailleurs, à Paris où elle se promène, mais travestie. Parce que, à cette époque, on comprend que c'est le prix à payer pour être libre de ses mouvements, mais sans être soi-même. Donc, Georges Sand est une des premières flâneuses, mais déguisée en homme.
Oui, c'est ça. Et oui, bien sûr, c'était en tant qu'homme qu'elle avait l'accès au café, au théâtre, au grand boulevard, elle pouvait marcher où elle entendait, en tant qu'homme, c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans la citation que je donne de son autobiographie, c'est qu'elle dit justement que ce n'est pas possible en tant que femme à cause de l'inconvénience des habits féminins. Les petites bottines et les grandes jupons. C'est juste pas possible pour une femme, pas simplement sur le plan social, mais sur le plan pratique, de circuler dans la ville où elle veut. Donc je trouve ça très amusant que c'est un choix juste pratique devant tout, parce qu'on a l'idée de Georges Sand qui était révoltée, femme indépendante avec la cigare et tous les amants. Mais en fait, ce choix de travestir, c'était symbolique, mais sur notre plan, c'était aussi juste, j'aime bien les bottes de mec, quoi. C'est plus confortable.
C'est vrai qu'à l'époque, Paris avait sans doute des trottoirs mal fichus où, en effet, bottines, on pouvait régulièrement tomber, sans parler évidemment de la boue, des détritus. Et il a fallu attendre Haussmann qui a révolutionné toutes les artères parisiennes pour avoir des trottoirs plus faciles à... Alors, à cette époque, en 1855... très exactement, un poète écrit un magnifique texte où il évoque une femme dont la silhouette glisse dans la rue. Il s'agit du poème intitulé « À une passante », écrit par Baudelaire et interprété ici par Serge Reggiani.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse soulevant balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui une émission qui met ses semelles devant pour reconquérir la ville pas à pas, sous titre du livre de notre invité aujourd'hui, Lauren Elkin, auteur du livre Flâneuse paru aux éditions Houellebecq, où à travers, on l'a entendu dans la première partie, vos déambulations personnelles, vous vous rappelez celles d'autres femmes, d'autres artistes, comme la française Sophie Calle, par exemple à Venise, qui dans les rues de la Sérénissime suit son amant, l'américaine Martha Gellhorn, reporter de guerre américaine, qui photographie Madrid, entre autres, pendant la guerre d'Espagne, et puis deux autres femmes, deux écrivaines, à commencer par Jane Rees, née aux Antilles, en Dominique. Exactement, un peu oublié aujourd'hui, hélas. Voulez-vous nous rappeler qui elle était, Lauren Elkin?
En fait, il s'agissait d'une jeune femme de famille galloise sur le côté de son père et sur le côté de sa mère, un peu mixte, un peu créole, un peu anglais, mais oui, c'est-à-dire que c'était une famille de teneurs de plantation qui ont mixé un peu avec la population locale, les esclaves, bien entendu. Et donc, elle se sent un peu displacée, comme quoi elle n'a pas de chez elle, elle n'appartient vraiment pas à l'île où elle a grandi, de Dominica, et non plus à l'Angleterre ni au Pays de Galles, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de chez elle. Et donc c'est quelqu'un qui est juste une flâneuse par excellence. Si on n'a pas de chez soi ou si on se rend compte que nous sommes tous en exil, même si on ne se rend pas compte, on aime bien s'inventer des nationalités ou des chez nous, mais en fait c'est quelque chose de construit toujours. Donc pour Jean Rees, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'Angleterre où elle est envoyée pour ses études. Elle fait la rencontre d'un jeune homme du Pays-Bas et il l'amène avec elle en France. Et c'est la première fois qu'elle ira à Paris. Et en fait, ils doivent y aller à pied. Ce qui est intéressant, ils viennent à pied, ils passent à travers la frontière avec la Belgique à pied. Elle a 6 mois de grossesse à ce moment-là.
Il faut rappeler à quelle époque, on est dans les années 1900.
Oui, 1919.
C'est ça.
C'est juste après la Première Guerre mondiale. Lui, il a perdu sa nationalité, son passeport, parce qu'il a fait partie du French Foreign Legion, Légion
étrangère ou Légion française?
Oui, la Légion française. Donc, même s'il n'était pas français, il l'a fait. Et donc, voilà, il ne pouvait pas rentrer en Pays-Bas. Elle, en tant que sa femme, a perdu son passeport, elle aussi, parce qu'à l'époque, on prenait le passeport de son mari. Donc voilà, ils font cet immense voyage à
périple,
pied.
Oui.
Voilà. Donc, et puis elle arrive à Paris et elle est juste émerveillée. Paris sous le soleil en 1919, c'était la fin de la guerre. C'était un moment où il y avait tellement d'artistes et écrivains qui se concentraient autour de Montparnasse où ils se sont installés. Et elle a des petits espoirs d'écriture. Et donc voilà, c'est un peu comme pour elle, Paris, c'est là où sa vie va vraiment commencer. Ce qui est bizarre parce que ses romans sont un peu plus ambigus au niveau de l'espoir, du hasard. C'est un peu, elle présente des femmes qui sont comme elle, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas de chez elles. Et qui déambule dans les rues de Paris et parfois de Londres à la recherche de quelque chose qui va leur, je sais pas, donner un sens de sécurité. que ce soit un homme, que ce soit une robe, que ce soit un emploi, ou juste la parfaite chambre d'hôtel. Et donc, oui, Jean Rhys, elle me semble, je sais pas, intéressant du point de vue du flâneuse, de la flâneuse, pardon, parce que elle nous fait questionner la façon dans laquelle la société est structurée un peu comme une machine, qui veut dire que certaines personnes sont très bien vues, comme quoi ils savent quoi faire dans la vie, ils sont bien rangés, ils sont on peut les respecter, ils sont très je sais pas bourgeois ou... Et puis il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à fonctionner comme le reste du monde. Ils sont juste incapables. Ce n'est pas qu'ils ont quelques défauts, c'est juste ils sont nés autrement. Et la société ne fait pas de place pour eux. Donc Jean Rhys et ses héroïnes font partie de cette espèce de gens. Donc elle raconte la flâneuserie comme un essai de trouver sa place dans un monde où on sait qu'on n'en a pas. Et donc c'est, je sais pas, pour moi c'est passionnant. C'était passionnant pour moi quand j'avais 19 ans et j'ai découvert Paris en même temps que... Je sais pas, je me sentais un peu perdue aussi, et donc c'était à travers les romans de Jean Rhys que j'ai réussi à expériencer cette sensation d'être perdue comme quelque chose de positif, non simplement quelque chose de, je sais pas, de, enfin, je vais me jeter dans la Seine, mais plutôt il y a une texture de la mélancolie et Paris c'est l'endroit parfait pour le ressentir et je vais y aller un peu plus loin et un peu plus loin juste pour savoir à quoi ça se ressemble. Donc voilà, la lecture de Jean Rhys c'était très important pour moi à cette époque-là.
Alors on va citer d'ailleurs certains de ses titres, Rive Gauche, Quai des Grands Augustins et Paris Minuit par exemple, une œuvre dans laquelle on retrouve à la fois sa fascination des cafés et cet amour pour les rues, pour Paris, ses bâtiments. Autre écrivaine dont vous faites le portrait en creux, Lauren Elkin, Virginia Woolf, à Londres cette fois. Elle fait aussi l'expérience de la flânerie. On est dans les années 20-30, puisqu'elle meurt en 1941, n'est-ce pas? Elle se suicide en 1941. Et là, on sent à vous lire, Lauren Elkin, que pour Virginia Woolf aussi, aller dans la rue, marcher, flâner, c'est vraiment la revendication d'un acte de liberté, d'émancipation, et aussi une nécessité de la solitude qui est inhérente à l'écriture.
Oui, c'est vrai. Elle a écrit un essai qui s'appelle Street Haunting. Hanter les rues, je sais
pas. Hanter les rues.
Et voilà, c'est justement dans cet essai qu'elle se donne le tâche d'aller acheter un stylo, un crayon, quelque part de l'autre bout de Londres. Rien que pour avoir une bonne excuse pour aller flâner un peu dans les rues à la fin de la journée, une journée d'hiver. Et oui, elle raconte comme quoi, le moment que nous quittons nos foyers, on laisse derrière nous toutes les choses qui nous font nous-mêmes et on appartient à ce moment-là à la vaste armée républicaine de trampers, excusez-moi, de gens qui marchent à pied. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Donc voilà, elle écrit qu'elle devient un orb, donc un œil, un grand œil, observant. Elle n'a pas d'identité, elle est androgyne, pas femme, pas homme, juste quelqu'un dans la rue qui observe. Donc c'est le point de vue de l'écrivain par excellence, ou même un point de vue utopique de l'écrivain, parce que moi, en tant qu'écrivaine, je ne peux pas fuir my embodiment, le fait que je sois femme, c'est très difficile de laisser ça à côté. Mais pour Woolf, c'est quelque chose qu'elle réclame sans même rentrer dans les détails de cette réclamation, elle le fait. D'ailleurs, elle explique un peu plus sur cette réclamation dans son roman The Years, les années.
Les années.
Donc voilà, c'est là où elle dit explicitement que c'est difficile pour une femme de marcher dans la rue et de ne pas être accompagnée parce que ça attire toutes sortes d'attentions inattendues ou pas voulues. Donc, ouais, l'essai Street Haunting, c'est vraiment un constat majeur de Woolf sur le genre et sur l'expérience urbaine.
En même temps, elle transmet ce goût de la marche à Mrs. Dalloway, son héroïne.
Oui, tout à fait.
Puisqu'on la voit sortir dans la rue, aller acheter des fleurs. Et elle, on sent qu'elle s'est appropriée l'espace public.
Oui, c'est ça, c'est Mrs. Dalloway et tous les personnages de ce roman. Chaque trajet, on peut le tracer sur la carte de Londres et voir que c'est un roman qui est vraiment propulsé par la marche et qui se déroule au rythme de la marche, au rythme du pied, après le pas et puis l'autre pas et puis l'autre pas.
Alors, Lauren Elkin, vous aussi, vous êtes allée sur les traces à la fois de Jean Rhys, parce que vous allez dans les mêmes cafés autour de Montparnasse où elle était. Vous allez dans le quartier de Virginia Woolf à Londres, où vous vous perdez un peu d'ailleurs, parce que beaucoup de choses ont changé, et puis parce qu'elle a un peu associé des rues avec d'autres. Pourquoi cette nécessité de mettre vos pas dans les pas de ces écrivaines?
Je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait d'être jeune à un certain moment de sa vie, d'avoir, j'ai pas la vingtaine, et de ne pas vraiment savoir comment construire sa propre vie. Et donc, on retourne un peu à ses idoles. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Où est-ce qu'elles ont été? Qu'est-ce qu'elles ont fait là-bas? Et oui, je pense que je le fais beaucoup moins maintenant. Mais à l'époque-là, à Paris, c'était, OK, on est là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, il y avait cet écrivain Jean Rhys qui était ici et tant d'autres. Hein. Où est-ce qu'ils sont allés pour devenir écrivain? Donc, c'était vraiment en tant que amatrice de ces écrivains anglo-américains qui habitaient à Paris dans les années 20, que je suis devenue moi-même écrivaine. On m'a donné un exemplaire de A Movable Feast by Ernest Hemingway.
Paris est une fête?
Oui, c'est ça.
D'Ernest Hemingway.
Voilà. Et il y a un moment très tôt dans le bouquin où il raconte qu'il est dans un café, il regarde un peu autour de lui et voit une femme qui lui plaît. Il dit, vous m'appartenez, beauté, et moi j'appartiens à ce stylo et à tout Paris, ou à tout Paris nous appartient, un truc comme ça. Et je me suis dit, ah bah voilà, si je vais être écrivain, il va falloir que je m'assoie dans les cafés et que je tiens mon stylo à la main et que je note absolument tout ce qui se passe devant moi. Je ne savais pas du tout que c'était quelque chose qui était très pratique, et en fait c'est exactement ça que font les écrivains. Moi, pour moi, j'avais uniquement comme exemple Ernest Hemingway. Et là, je suis un peu... je n'ai pas cette référence parce qu'Ernest Hemingway, ce n'est pas du tout mon type d'écrivain ou de mec en général. Mais voilà, c'était lui qui m'a appris à devenir écrivain moi-même.
Mais de toute façon, vous le dites aussi, Lauren Elkin, marcher dans une ville, c'est lire un grand livre et c'est aussi trouver un rythme d'écriture. Donc, c'est assez proche comme activité, marcher, lire, écrire.
Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Je l'ai découvert au fil des années à Paris, mais oui, absolument. Il y a un livre très intéressant de Frédéric Gros à propos de la marche. Il parle un peu de l'acte de marcher comme si ça déclenchait des énergies de littéraires. Et puis, quand on relit, par exemple, il parle pas mal de Nietzsche. Quand on relit Nietzsche, peut-être qu'on peut retrouver le rythme de ses marches, ses grandes randonnées, dans les lignes de ce qu'il a écrit. Et donc, je partage absolument ce point de vue. Je pense que, oui, marcher, ça déclenche les énergies littéraires qu'il me faut pour composer les livres quand je rentre chez moi. Et j'espère que ce que j'aurais pensé en marchant, que je note parfois sur mon petit iPhone, que ça se ressent, que ça ait l'esprit urbain imbriqué vraiment dans les textes.
Et en même temps, parfois, l'expérience... peut être difficile, par exemple à Tokyo, où vous avez vécu un certain temps, Lauren Elkin, on sent que la ville vous résiste, ou en tout cas qu'elle ne s'appréhende pas par la marche.
Oui, c'est ça. Peut-être que c'est vrai pour les autres, peut-être que c'était juste moi. J'assume complètement que Tokyo, c'était pas la ville qui m'a raté, mais moi qui a raté la ville. Que je vivais dans un quartier habité par des étrangers. J'étais là avec mon ex qui était un banquier français, et donc enfin, j'étais entourée par les banquiers français. C'était pas la bonne façon de voir Tokyo, je trouve. Et oui, on était à Roppongi, dans ce quartier-là. On était éloigné de la ville par une grande autoroute, et c'était enfin juste pas possible de la traverser sans dépenser beaucoup d'efforts physiques. Donc après que je l'aurais traversée, c'était oh là là, mais qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai plus d'énergie de marcher. Donc voilà, il fallait prendre le métro et aller découvrir les petits quartiers comme Inoshinjuku ou Shibuya, etc. Mais j'avais toujours l'impression que cette ville m'échappait, qu'il y avait quelque chose de génial là-bas, mais comment y aller, où commencer, je me sentais juste, j'avais perdu tous mes repères, j'avais pas de possibilité de m'y lancer là-dedans, il y avait pas d'Instagram, il y avait très peu de blogs, il y avait, enfin, pas de smartphone. Ouais, il y avait des librairies, il y avait une fois où
vous avez mis un mal fou à la trouver finalement, cette librairie.
C'était super difficile à trouver, c'est juste, enfin, leur système de donner les adresses, d'indiquer les adresses est très différent d'une autre. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est juste très très difficile. Même les chauffeurs de taxi, si vous leur donnez une adresse sur le GPS, ils n'ont pas forcément les moyens de le trouver. Donc on a pris un temps fou pour le trouver.
Et de fait, votre référence artistique, c'est Lost in Translation, le film de Sofia Coppola. Et non pas un roman, non pas une autre artiste qui a arpenté les rues, mais plutôt cette impression d'être perdu.
Ça et l'Empire des signes de Roland Barthes.
C'est vrai, l'Empire des signes de Roland Barthes.
Et Ponyo.
C'est vrai. Ça veut bien dire donc, avec cette expérience, qu'il y a des différences d'une ville à l'autre et qu'on ne flâne pas de la même façon à Paris, à Londres, à Venise et à Tokyo et à New York.
Oui, c'est tout à fait vrai. Oh, ouais. La flânerie, c'est quelque chose qui s'invente à travers les villes où on marche. C'est pas quelque chose qu'on peut copier et coller là où on va dans le monde.
Mais puisque vous vivez à Paris, on a le sentiment que c'est l'un des endroits où c'est le plus agréable de flâner, selon vous?
Oui, absolument. Oui, oui. Pour moi, de toute façon, je n'exclus pas la possibilité que d'autres préfèrent d'autres villes. Mais Paris, c'est à la taille humaine, quoi. Ce n'est pas trop grand comme Londres. Je sais pas, c'est toutes les petites villages de Paris, on peut facilement les aborder dans un après-midi, ou pas, peut-être pas tous, mais on peut se promener d'un bout à l'autre et ne pas se sentir trop fatigué et avoir l'impression d'avoir découvert tout un monde de gens, de différences, de drames du trottoir. C'est juste une ville qui me convient.
Néanmoins, je ne voudrais pas refermer cette émission sans évoquer un point qui me semble essentiel. C'est qu'en vous écoutant, on pourrait avoir l'impression que la flânerie est un droit acquis par toutes les femmes. Mais il faut rappeler quand même qu'il reste encore beaucoup d'endroits où il faut le conquérir, ce droit, parce qu'il y a un harcèlement de rue
qui est
très répandu partout dans le monde. Et la France ni Paris n'en sont pas exclus.
Oui, absolument. C'est très très grave, hein. C'est sérieux. C'est quelque chose qui a atteint pas mal d'attention ces dernières années. Donc ça, je suis content que ça arrive à se discuter, à se débattre dans les journaux, dans les médias. Mais justement, c'est pour ça qu'on a choisi pour le sous-titre « Reconquérir la ville, pas à pas », parce que ça me vient en fait de Georges Perec, qui est l'un de mes écrivains préférés, une flâneuse, même si c'était un homme, qui a dit que l'espace est un doute. Ça ne m'est pas offert, il faut que je le fasse et que je le refasse tous les jours. Donc c'est pareil pour les femmes, l'espace est un doute, l'espace urbain n'est pas donné ou offert à nous, c'est quelque chose qu'il faut conquérir et reconquérir tous les jours. Chaque fois que je quitte mon appartement, il faut lutter pour ma place sur le trottoir. Si j'étais harcelée dans la rue dans le passé, cela ne veut pas dire que je ne serai pas quand je quitte les bureaux aujourd'hui. Donc c'est juste quelque chose qu'il faut, pour lequel il faut se battre en permanence.
Et dire que c'est un droit et que les femmes, quel que soit leur pays, quelle que soit la ville, quelles que soient leurs origines sociales, leur religion, leur âge, leur distinction personnelle, ont le droit et doivent avoir la liberté d'aller dans la rue.
Oui, c'est ça, très bien dit.
Ouais. Et flâner.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Lauren Elkin.
Ah, merci à vous.
Pour ce livre qui, à la fois, est une flânerie géographique, littéraire, artistique, et un très beau récit et un essai politique important pour les fans, pour les flâneurs et les flâneuses. Du titre de ce livre qui a paru aux éditions donc au Québec dans la collection Étonnant Voyageurs, puisque nous sommes ce week-end au cœur du festival du même nom. Un livre qui, je le précise aussi, a été traduit de l'anglais par Frédéric Lebert, un flâneur sans doute. Merci.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.